peut-être avant de commencer à proprement parler le thème de la Révolution, simplement replanter le décor pour comprendre dans quel contexte intellectuel, culturel, social, économique cette révolution intervient. La première chose, c'est que nous sommes dans la France d'Ancien Régime, qui est une société d'ordre, c'est-à-dire, bon, vous le savez, hein, clergé, tiers état et noblesse, et en fait cette société, on va dire, est impactée par différents chocs. Le premier choc est un choc, on va dire, intellectuel, culturel, hein, c'est ce qu'on a appelé les Lumières, qui ont leur déclinaison européenne, hein, partout dans les pays européens. Vous avez un mouvement philosophique, les Lumières, qui va ici, non pas forcément, comment dire, être révolutionnaire en tant que tel, mais en tout cas apporter des idées nouvelles et finalement permettre à certaines personnes de penser qu'un autre régime est possible. Sinon, les idées elles seules n'expliquent pas la révolution. Hein. Longtemps, on a pensé, il y avait un courant historique comme ça qui pensait que la révolution était liée simplement à ce mouvement philosophique. Aujourd'hui, on est revenu un petit peu sur cette analyse, parce qu'autrement, partout en Europe, on aurait vu émerger des révolutions, ce qui n'a pas été le cas. Mais en tout cas, ça permet de penser qu'un autre régime est possible. Voilà. Il y a donc ce mouvement des idées des Lumières, qui va d'ailleurs séduire une partie de la bourgeoisie. Alors, il y a justement ce qui est important ici, c'est de comprendre que la bourgeoisie, à cette époque, n'arrive plus à accéder à la noblesse. Hein, auparavant, il y avait quand même une certaine porosité entre les différents ordres. Et à la fin du XVIIIe, on a une société qui se bloque, qui se rétracte. Donc la bourgeoisie va s'intéresser aux Lumières et finalement se politiser et s'intéresser à la chose publique pour revendiquer aussi des droits nouveaux, d'accéder ici à l'ordre de la noblesse, et finalement va se convertir à cette idée révolutionnaire que sont les idées des Lumières progressivement. Voilà. Alors, autre chose pour redresser le contexte très rapidement, les tensions sociales qui s'accroissent, la crise économique et des révoltes qui éclatent un petit peu partout dans le royaume à la fin du XVIIIe siècle. On a par exemple une journée à Grenoble, en 1787, la journée des Tuiles, où la garde royale est prise à partie, les habitants défendant les privilèges des nobles locaux montent sur les toits de Grenoble et jettent les tuiles, hein, sur la garde royale. Donc, c'est pas à proprement parler là un événement révolutionnaire, mais on a des révoltes comme ça dans le royaume qui émergent progressivement. Alors, face à cette situation très tendue de société bloquée, d'État qui n'arrive pas à se réformer par le haut, eh bien, le roi décide de convoquer les États généraux. Donc, vous savez, les États généraux, c'est l'assemblée des trois ordres qui, devant lui, doivent ici apporter la parole de la nation. À ce sujet, et pour préparer les États généraux, le roi fait rédiger ce qu'on a appelé les cahiers de doléances. Vous vous souvenez certainement de ces cahiers de doléances, qui sont pour l'historien un document important, pas tellement pour, comment dire, enfin, ça permet d'avoir une photographie, on va dire, de l'opinion française à un moment donné. C'est pas une photographie exacte, hein, la rédaction, on pourrait revenir peut-être dans les questions, on va faire trop long sur la rédaction des cahiers de doléances, mais c'est un document assez intéressant, qui a été rédigé par soit les hommes d'église, soit les gens cultivés du village, et donc il y a quand même des modèles qui circulent, hein, c'est pas un document véritablement authentique, on aurait la parole livrée telle quelle. Voilà. C'est un document qui est fabriqué, façonné, mais qui permet de comprendre ce que veut la population à cette époque. Et ce qu'elle veut, eh bien, c'est ici une égalité par rapport à l'impôt, par exemple. C'est de mettre fin à la société d'ordre. Et c'est une plus grande justice. Et la population, à ce moment-là, s'en remet au roi et ne traite pas le roi comme... Il y a très peu, en fait, si vous voulez, de messages d'animosité par rapport au roi. Hein. C'est quand même... Ici, voilà la volonté que le roi écoute les revendications populaires. Ce qui est intéressant de voir là, c'est que justement, c'est à la convocation de ces états généraux que finalement le processus révolutionnaire s'enclenche. Par la première journée, qui est celle du 17 juin, comme vous l'avez sur la chronologie, et qui est ici, on va dire, la première étape d'une révolution par le haut, par les élites, puisque c'est la proclamation de l'Assemblée nationale. Alors vous vous souvenez, les états généraux c'était la nation assemblée. Là en fait l'assemblée inverse les deux termes, c'est plus la nation assemblée, mais l'assemblée nationale. Et donc du coup, cette assemblée nationale devient ici une instance qui peut voter les lois, qui peut par exemple demander une constitution. Et c'est là une étape importante parce que le roi n'avait pas prévu du tout ce cas de figure-là, mais face en fait aux non-réponses du roi face au cahier d'oléances, face au tiers-état qui était venu apporter cette parole, eh bien, les députés du tiers-état choisissent ici de s'autoproclamer Assemblée nationale. C'est aussi important, pas simplement parce qu'ils pourraient faire des lois, mais parce que du coup, c'est ici la souveraineté qui passe, on va dire, du roi à cette Assemblée nationale. Donc quelque part, l'instance de décision ici revient désormais à ses représentants du peuple. Donc il y a une épreuve de force. Voilà. Épreuve de force qui commence et qui va aboutir le 20 juin, donc quelques jours plus tard. Là aussi c'est un événement qui est connu, sacralisé presque. Le roi va fermer la salle de réunion du tiers-état, le tiers-état va se réunir dans ce qu'on a appelé la salle du jeu de paume, et par un acte solennel, va ici jurer de ne plus se séparer jusqu'à ce qu'une constitution ait été adoptée. Là, deuxième étape, l'épreuve de force commence, on va dire, à basculer côté plutôt de cette Assemblée nationale. Alors, petit détail, il n'y a pas que des députés du tiers-état, il y a aussi un député de la noblesse et un député du clergé, ils sont peu nombreux, mais ils sont quand même présents. Voilà, donc on a ici deux dates extrêmement importantes sur le processus révolutionnaire. Donc, on a ici, à proprement parler, une révolution politique. Le 9 juillet, vous avez la date aussi à nouveau. Le 9 juillet, donc, cette Assemblée nationale se proclame Assemblée nationale constituante. Donc, désormais, elle a pour vocation, pas simplement de voter des lois, mais d'adopter une constitution. Alors là, le modèle peut aussi venir des monarchies anglaises, qui avaient adopté ce type de fonctionnement, même si le fonctionnement n'était pas véritablement démocratique, mais il y avait des inspirations dans le passé qui faisaient qu'on pouvait imaginer, et les Lumières ont aussi apporté cette idée, qu'on pouvait imaginer un pouvoir ici partagé entre le roi et une Assemblée nationale. C'est pas non plus ici encore véritablement, il n'y a pas un projet républicain forcément derrière, en tout cas à cette étape. Alors, c'est pas possible. Non pas que certains ne désirent pas un projet républicain, mais en tout cas, les choses ici vont extrêmement rapidement. C'est en quelques jours, ici, on passe d'une situation de monarchie absolue, en décrépitude certes, mais d'une monarchie absolue, en un pouvoir où la monarchie est absolue et contestée. Donc, première étape, une révolution politique. Deuxième étape, on va dire une révolution municipale. C'est peut-être ce qui est moins connu, en tout cas moins pris en compte généralement quand on étudie cette période, qui est connu parce qu'il y a eu la prise de la Bastille, mais généralement on connaît mal ce qu'il y a derrière la prise de la Bastille. Donc la prise de la Bastille, c'est, vous le savez sûrement, la volonté par le peuple parisien de se défendre face aux menaces des troupes royales disposées autour de Paris. Donc le peuple ici s'immisce dans le processus révolutionnaire, désire protéger cette Assemblée nationale constituante qui s'est formée, et donc désire s'armer. Pour s'armer, il y a la poudre à la Bastille, et donc le peuple s'empare de cette prison royale, qui est ici un des symboles de l'arbitraire du roi. Donc bon, il y a ce symbole voilà, important, mais ce qui a presque de plus important, c'est ce qui va émerger de l'après-prise de la Bastille, c'est-à-dire la refondation du pouvoir municipal en place et la prise de pouvoir par la bourgeoisie des municipalités. Donc vous avez des pouvoirs ici qui vont émerger à Paris, mais aussi dans d'autres villes de province qui vont connaître le même processus de prise de pouvoir, d'insurrection du peuple, avec la bourgeoisie qui va former ce qu'on a appelé des municipalités, qui va ici gérer finalement et défendre cette Assemblée nationale constituante. Enfin, il y a une autre composante, donc révolution politique, révolution municipale, et il y a aussi une composante populaire à cette révolution, puisque le peuple des campagnes va aussi se mêler à ce mouvement de révolution, puisque vous avez des insurrections qui débutent aux alentours du 22 juillet. Bon, vous n'avez pas la date, mais ce n'est pas non plus extrêmement important. Ce qui est important de retenir, c'est que c'est surtout dans l'été 89 qu'il y a un mouvement comme ça d'insurrection dans les campagnes, qu'on appelait la Grande Peur. La Grande Peur, c'était surtout pour la noblesse ici, et les seigneurs qui ont vu la population envahir leur château fort, brûler les documents qui recensaient finalement les terres, qui appartenaient les terres et surtout qui devaient payer les impôts. Alors, pour l'historien, c'est un drame tout relatif, puisque du coup, ce sont des documents aussi originaux qui ont disparu. Mais bon, c'est comme ça, l'histoire est faite de choses qui disparaissent. Mais voilà, en tout cas, c'est ici voilà, un triple mouvement dans cette révolution française, à la fois une rupture politique, une rupture dans la révolution municipale et une implication populaire qui ici touche l'ensemble du royaume. Donc en 89, hein, en quelques mois, ici, de juin à finalement de juin à juillet, on a un mouvement d'insurrection quasiment dans tout le territoire. Alors, face à cette rupture politique, on a aussi une rupture sociale qui va naître de la Révolution. Toujours dans cette année 89, on a la nuit du 4 août, où l'Assemblée nationale, ici, détruit complètement le régime féodal. Hein, la nuit du 4 août, vous avez un document, je crois. Pascal a photocopié donc l'abolition des droits féodaux, la séance de la nuit du 4 août. Donc cette nuit, voit l'abolition des différents privilèges. Donc la noblesse, qui ne payait pas d'impôts, devra désormais payer l'impôt. La population qui devait lui payer des droits. Alors là, par contre, c'est plus compliqué. C'est pas forcément qu'ils ne paieront plus les droits féodaux, mais en tout cas, ils peuvent les racheter. Donc, vous voyez, il y a aussi ici l'idée qu'il y a une forme de consensus quand même dans cette nuit du 4 août, qui est un événement extrêmement important, qui met à mal, enfin, qui détruit en fait la société d'ordre, mais il y a une sorte de, voilà, de quand même de justification par un consensus qui est trouvé finalement où les droits féodaux peuvent être rachetés. Voilà. Ça n'empêche que le processus est lancé. Hein. Vous savez que voilà, quand les choses sont en mouvement, après il est difficile de les arrêter, et là on a une étape à nouveau importante. Dans la foulée de la nuit du 4 août, on a aussi la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, autre étape ici de rupture sociale par rapport à l'ordre ancien, par rapport à cette société d'ancien régime. Alors, bon, je ne vais pas vous faire une analyse exhaustive de cette déclaration. Bon, aujourd'hui, elle est connue, reconnue, c'est presque la seule sur laquelle, qu'on a en tête, en tout cas en référence, quand on parle de déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Certes, elle pose, on va dire, les jalons d'une organisation nouvelle, d'une société basée sur l'égalité, la liberté, le droit de propriété, mais elle passe sous silence beaucoup d'aspects de la vie. Il n'y a rien, par exemple, sur l'éducation, hein, sur la répartition, on pourrait dire, des richesses, pas grand-chose. Et en fait, cette déclaration est issue d'un consensus. Là aussi, à l'origine, plusieurs documents circulaient, et la rédaction de ce texte final tient compte ici d'un rapport de force dans la société. Et à cette étape, c'était le document qui, on va dire, recueillait le plus grand nombre d'adhésions parmi la quarantaine de projets qui étaient alors discutés à cette époque. Néanmoins, cette déclaration est importante parce qu'elle fonde aussi un état de droit. Hein, désormais, il n'y a plus simplement une assemblée, il y a aussi un texte commun où tout le monde peut se référer et véritablement ici, on a la fondation d'un état de droit. Bien, donc face à ces évolutions, le roi, ben ici quand même, Louis VII va quand même réagir. Et on a une crispation au pouvoir, donc une crispation légitime hein, de la part de quelqu'un qui ici perd la main sur ce qu'il avait appelé les états généraux, qu'il a convoqué, et là finalement durant l'été quelque chose de nouveau s'est créé. À nouveau, la population va intervenir dans le processus, puisque le 5 et 6 octobre, vous avez donc la marche des Parisiennes, hein, ce sont les femmes ici qui se mêlent à la Révolution, et qui vont demander au monarque, pas d'abdiquer, mais en tout cas de reculer face à la pression populaire. Hein, il y a toujours ce mouvement ici, hein, on avait une pression sur l'Assemblée constituante, les gens sont intervenus, il y a eu le 14 juillet, là à nouveau, hein, après la nuit du 4 août, après la déclaration des droits de l'homme, le roi se crispe, il y a un danger pour la Révolution, à nouveau la population intervient. Voilà, donc on a une année 89 ici qui va être finalement décisive. L'année suivante, hein, je vais vite, mais l'année suivante, on retrouve le 14 juillet, un événement qui, là aussi, permet de bien comprendre l'enjeu et qui permet peut-être de comprendre qu'on a une nation qui est née à cette époque-là. C'est le 14 juillet, fête de la Fédération qui marque donc la naissance de la nation. Hein, à ce moment-là, le roi jure de respecter la loi, la nation. Et il y a une forme de communion entre le roi et la nation, même si il y a encore de profonds clivages politiques à cette époque. On peut même dire qu'ils n'ont jamais été aussi profonds qu'à cette époque. Pour certains, modérés à l'époque, cet événement marquait, on va dire, l'aboutissement de la Révolution. Certains auraient aimé qu'elle s'arrête ici, que le roi ait finalement une assemblée qui modère son pouvoir, qui légifère, mais qui n'est pas un pouvoir qui aille au-delà. Finalement, vous connaissez la suite, on a la fondation d'une monarchie constitutionnelle dans un premier temps, en 1791. Monarchie constitutionnelle qui, on va dire, permet au roi d'avoir des pouvoirs relativement étendus. Cette année 91 marque ici à plusieurs reprises l'utilisation du droit de veto par le roi. Hein, le droit de veto, c'était la capacité du roi à s'opposer à une loi, et à la repousser. Pour que la loi soit adoptée, il fallait que trois assemblées consécutives, c'est-à-dire en fait que l'assemblée qui est élue toutes les deux ans, vote la même loi. Donc c'est-à-dire qu'il pouvait mettre en fait son veto sur 6 ans et que l'assemblée se mette d'accord sur la loi adoptée durant 6 années, donc durant 3 assemblées différentes. C'était relativement compliqué. Donc le roi avait quand même des pouvoirs relativement étendus. Mais cette monarchie constitutionnelle, cette monarchie parlementaire, marque le début et l'apprentissage de la démocratie dans la population. C'est en effet là qu'ont lieu les premières élections, même si elles ne sont pas au suffrage universel, c'est le suffrage censitaire, mais il y a quand même des élections, il y a donc des gens qui ont pris l'habitude de voter, de donner leur avis, de donner leur opinion. Et le fait d'avoir procédé comme ça, ça permet aussi à chacun, finalement, non plus d'être sujet, mais d'être véritablement citoyen. Et donc, là aussi, hein, on a ces notions contemporaines qui sont extrêmement importantes et qui naissent à ce moment-là. Cette notion de citoyenneté, cette notion de démocratie et de suffrage universel qui est quand même réclamée par un grand nombre. Et notamment, vous avez le texte de Robespierre qui, lui, se prononce tout de suite pour une assemblée constituante en août 91. On reparlera de Robespierre tout à l'heure dans la politique qu'il a menée avec ce qu'on appelait le régime de la terreur. Bien, donc en tout cas, des citoyens qui votent, même si 3 millions restent des citoyens passifs. Les citoyens passifs, ils ne votent pas. Donc vous avez une césure hein, dans le corps électoral, si on peut dire, en tout cas dans la population, entre des citoyens actifs et des citoyens passifs. Hein, voilà. Ceux qui votent, ceux qui ne votent pas. Bien, en tout cas, la monarchie se retrouve en phase à des difficultés internes très fortes. Et une crise de confiance qui n'a cessé d'ailleurs hein, depuis 1989, mais qui s'accentue au fil du temps. Et le roi, en juin 91, le 21, 22 juin, le 20 juin, voilà, le roi fuit à Varennes. Alors là, vous savez qu'il a fui pour rejoindre les monarchies européennes et pour ici tenter de reprendre la main sur un pays qui finalement lui échappait. C'est en fait une crise de confiance majeure qui scelle ici une rupture, qui est une rupture, simplement petite parenthèse, qui est une rupture qui en fait s'étale sur tout le XVIIIe siècle. C'est-à-dire que ce n'est pas du jour au lendemain où le peuple français se rend compte que le roi est quelqu'un en qui on ne peut pas faire confiance. C'est en fait ce que certains appellent une désacralisation hein, tout au long du XVIIIe siècle. Donc c'est un mouvement ici très fort où le peuple ici trouve que la personne royale est moins sacrée. Et aujourd'hui on parle aussi, c'est un synonyme, hein, mais de rupture affective. Voilà, il y a une rupture entre le roi et la nation qui est ici de plus en plus forte, de plus en plus grande. Et cette fuite du roi ici, on va dire, scelle cette crise de confiance. Vous avez dans la monarchie d'autres crises, hein, crise militaire. Vous avez donc la guerre contre l'Autriche, qui est déclarée. Vous avez aussi une crise politique qui s'ajoute à cette crise de confiance, à cette crise militaire. Bon, la crise politique, c'est le bras de fer à l'Assemblée nationale entre le roi, qui utilise à plusieurs reprises son droit de veto, et puis les députés qui, commencent ici à avoir une action beaucoup plus violente envers le roi. Et vous aviez des sections de sans-culottes, de révolutionnaires, qui, un petit peu partout en France, commencent à demander que l'on mette fin à la monarchie et demandent la déchéance du roi. Donc vous avez ici une année, on va dire, charnière, où finalement, c'est un échec pour ceux qui désiraient une monarchie parlementaire, constitutionnelle, et on commence ici à voir une radicalisation complète de la vie politique. En 92, j'essaie d'aller vite pour pas non plus qu'on se perde dans les méandres des événements, même si c'est même si ce sera intéressant, on pourra en reparler peut-être quand vous poserez des questions. En 92, on a véritablement ici la révélation de cet antagonisme entre le roi et la nation, puisque les sans-culottes vont envahir le château des Tuileries, qui était défendu par des gardes suisses, hein, pour l'anecdote d'ailleurs. Ils prennent le château et finalement mettent fin ici à la monarchie. Vous avez donc la proclamation de la République le 21 septembre 92. Ce qui est important, c'est qu'entre-temps, dans cette période, les députés du tiers-État, enfin les députés de la nation, pardon, vont être envoyés non plus au suffrage censitaire, hein, donc il ne faut plus payer un impôt, il ne faut plus être propriétaire ou avoir un certain niveau de revenu, mais ici tout le monde va pouvoir voter. Hein, c'est donc l'établissement du suffrage universel. Voilà. À ce moment-là, on a donc une nouvelle phase de la révolution qui va commencer, puisque la monarchie prend fin. Alors, la République doit faire face à de nombreux défis à cette époque. Bon, le premier défi, pour faire simple et rapide, c'est que faire du roi, le garder prisonnier, ou la solution qui va être choisie, décapiter Louis XVI. Alors, bon, on ne va pas tomber dans le... Bon, il y a un débat historique, surtout entre les historiens très à droite, sur ce qu'il fallait finalement ne pas tuer Louis XVI, etc. Bon, beaucoup aujourd'hui disent que pour que la République vive à l'époque, il fallait surtout que le roi meure. C'est ici symbolique, et au-delà du symbole, c'est dans un contexte de radicalisation de la vie politique que ça s'inscrit. Après, bon, je crois que c'est difficile de porter un jugement quand même sur cet acte, mais voilà, le fait est que par la mort de Louis XVI, c'est la République aussi qui peut vivre et qui va ici vivre. D'autant plus que la Révolution est contestée. Elle est contestée par un mouvement qui est, on va dire, polyforme, hein, qui a plusieurs aspects. Elle est contestée à la fois par un mouvement contre-révolutionnaire, un mouvement donc de réaction au processus de la Révolution, qui souhaite revenir à une monarchie absolue, hein, ou à une monarchie, mais en tout cas qui est ici très clairement contre-républicain, anti-républicain, composé principalement de nobles, du clergé réfractaire, hein, qui n'a pas adopté... qui n'a pas juré fidélité à la Révolution. Ce mouvement contre-révolutionnaire a une géographie assez particulière, hein, surtout dans l'ouest de la France, hein, en Vendée particulièrement. En Bretagne, on retrouvera aussi des épisodes contre-révolutionnaires. Vous en avez aussi dans le sud de la France, hein, avec en Ardèche aussi, vous avez un mouvement assez bref, mais vous avez un mouvement contre-révolutionnaire qui va ici quand même avoir une certaine importance. Parallèlement à ce mouvement contre-révolutionnaire, vous avez aussi un mouvement fédéraliste qui va lutter contre le pouvoir central. C'est un mouvement assez complexe, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais c'est un mouvement ici assez complexe, hein, qui se nourrit pas simplement de contre-révolutionnaires. Hein. Vous retrouvez aussi des révolutionnaires, enfin des révolutionnaires, oui, d'une certaine façon, des gens qui au départ étaient révolutionnaires, par exemple quelques Girondins, mais aussi parfois d'autres sensibilités de l'époque. En tout cas, c'est un mouvement fédéraliste ici qui met à mal l'unité de la nation très clairement. Bien, donc cette république est en proie à des tensions internes fortes, à une guerre civile, notamment en Vendée, face au mouvement donc fédéraliste, royaliste, contre-révolutionnaire. Le danger est aussi extérieur durant cette année 92-93, puisque la France est en guerre contre l'ensemble des monarchies européenne, hein, autrichien, anglais, hollandais, et les défaites d'ailleurs s'accélèrent. D'où la rupture en fait avec la monarchie. Hein, c'est un petit peu tout ce contexte mêlé, hein, de tensions internes, de mouvements à la fois de guerre contre l'étranger qui va ici mettre fin à la monarchie et déclencher une république. République qui va donc prendre le nom de terreur. Alors, pour faire vite, cette période est aussi marquée, on reviendra peut-être sur les aspects militaires, sur les aspects de terreur, à proprement parler, mais la mise en place ici d'un système, on va dire, extraordinaire, permet aussi à la République, finalement, de survivre. Elle n'aurait pas survécu sans mesures exceptionnelles. Hein. Et en même temps que s'installe la République, se consolide la République, vous avez un mouvement qui va poursuivre les réformes sociales. Voilà. On avait la nuit du 4 août, la déclaration des droits de l'homme, et on a aussi ici la volonté de mettre en avant ce qu'on a appelé à l'époque une république sociale, notamment donc sous l'impulsion des Jacobins, hein, donc un club révolutionnaire. Voilà. Donc, il va y avoir une nouvelle déclaration des droits de l'homme à cette époque, donc la déclaration des droits de l'homme de juin 93, qui reprend celle de 89 en la complétant. Je crois, ça fait hors de ma part, vous en avez d'ailleurs une exposition au musée Carnavalet à Paris, musée gratuit d'ailleurs, vous avez, il me semble, la déclaration des droits de l'homme de 93 qui est exposée à côté de celle de 89, hein, qui montre justement à la fois le fil directeur et à la fois les différences qu'il existe avec la déclaration de 89. Donc, elle la complète, et cette République va aussi accorder une série de droits sociaux. Hein, vous avez notamment des lois sociales qui sont votées, notamment l'aide aux plus pauvres, le secours aux plus pauvres, qui est voté en 94, hein, qui est complété en fait en 93, en 94. Vous avez aussi le droit au travail, qui est proclamé, l'instruction obligatoire, qui est votée, et la volonté d'avoir un partage plus égalitaire des richesses, qui est aussi voté par la loi de mars 94. Donc vous avez ici un édifice social qui est mis en place et qui vraiment complète les mesures qui avaient été prises en 89. Voilà. Alors, évidemment, c'est une période un petit peu, on va dire, je dirais pas controversée, mais en tout cas soumise à un débat historique qui reflète, en fait, si vous voulez, les clivages politiques actuels dans sa complexité, parfois. Mais vous avez voilà une historiographie, donc des historiens plutôt de droite, des historiens plutôt de gauche qui vont analyser la période de la terreur de différentes manières. Globalement, aujourd'hui, on est quand même, pour dire les choses de manière relativement dépassionnée, on va dire, voilà, il y a eu des excès durant la période de la terreur, vraisemblablement un certain nombre de massacres de part et d'autre d'ailleurs. Hein, c'est pas que dans un sens, c'est pas simplement les républicains qui vont mener des opérations en Vendée et raser des villages, hein, c'est aussi l'inverse, hein, c'est aussi les contre-révolutionnaires qui vont aussi avoir une violence terrible envers les villages qui sont restés républicains. Le roman de Victor Hugo d'ailleurs à ce sujet montre un peu l'ambiguïté, la violence qui finalement est une sorte de matrice à l'époque, hein, vous avez une société violente, voilà, qui les réponses sont forcément violentes. Voilà. Le bilan reste relativement difficile à faire de cette période. Je pourrais peut-être le faire tout à l'heure dans les questions. C'est pas en termes de mort, le bilan, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. En tout cas, ce régime-là, ce régime de mise en place par Robespierre, a permis la consolidation de la République, des avancées sociales. Robespierre va être mis en minorité, hein, au sein de ce gouvernement, et finalement, la terreur va prendre fin. Et on va avoir ce qu'on appelle les thermidoriens, donc ceux qui ont pris le pouvoir à la suite de Robespierre, qui vont finalement ici, non pas revenir à une monarchie, mais simplement revenir à une république qui n'est plus ici une république sociale, mais qui vont revenir à une république avec des principes, on va dire, propres presque à ceux de l'année 91, hein, notamment sur le suffrage universel. Certains ont appelé ça la république bourgeoise, hein, ce qui caractérise assez bien qui dominait la période, hein, c'est plutôt la bourgeoisie ici qui domine cette république et qui écrase, là dans la violence, à nouveau les oppositions de gauche. Vous avez des mouvements qui vont, durant cette république, prôner à nouveau les valeurs d'égalité, etc., notamment au niveau du suffrage universel, et qui vont ici être réprimés dans le sang, hein, véritablement. Donc c'est aussi important de voir que la violence ne s'arrête pas et ne commence pas avec la terreur. Donc en 95, hein, 94-95, on a une nouvelle organisation des pouvoirs qui va donner naissance à ce qu'on a appelé le directoire, avec le suffrage censitaire, 20 000 personnes éligibles, et un pouvoir exécutif confié à 5 directeurs. Donc là, on a un retour en arrière, finalement, par rapport aux principes qu'on avait établis précédemment. Face à cette situation, il y a une conjuration qui s'est créée, un mouvement. Très bien. Donc vous l'avez dans la bibliographie, un mouvement qui a émergé sous l'impulsion de Gracchus Babeuf, qu'on appelait la conjuration des égaux, et qui ici pose les bases d'un nouveau gouvernement, d'une volonté de mettre en commun les biens de la nation, de nationaliser, alors je ne sais pas, je vais le dire en des termes plus modernes, mais de nationaliser une partie des moyens de production, hein, d'avoir ici, on va dire, des industries qui soient nationales et qui profitent, voilà, qui soient, enfin, qui profitent à tous. Il y a une volonté d'abolir la propriété aussi, donc c'est un gouvernement ici qui peut rappeler, certains en ont fait le précurseur de, on va dire, du communisme, du socialisme. C'est un peu tôt, c'est vrai qu'il y a un mouvement de pensée en tout cas qui émerge ici, notamment sur la propriété. Donc, bon, certains en font un précurseur du socialisme, ce qui s'entend d'ailleurs, hein, notamment en posant les bases d'une société idéale. Non. C'est une action clandestine, avec une volonté d'insurrection, très clairement, même si elle reste que théorique. Hein, elle n'est pas rentrée dans la réalité. Alors pourquoi insurrection ? Ben, parce que, comme on l'a dit précédemment, les choses deviennent extrêmement compliquées pour prendre le pouvoir de manière légale, en tout cas par les urnes, et on est toujours dans ce processus violent, révolutionnaire, où de toute façon, là, l'alternative politique se conçoit par un mouvement qui doit passer par ce type d'action. Mouvement réprimé, hein, la conjuration prend fin par la violence, mais en même temps, les leaders sont arrêtés et tués. S'ouvre alors une période où cette république bourgeoise, ce directoire, va tenter ici de maintenir un équilibre et de réprimer les oppositions à la fois sur sa gauche, mais aussi sur sa droite, puisque les mouvements monarchistes ici font aussi leur apparition et sont toujours aussi puissants dans la société. Hein, faut pas croire que la monarchie et les monarchistes ont une action qui s'arrêterait ici à la proclamation de la République. Il y a une volonté, hein, de poursuivre ici et de déstabiliser cette République, même si, on l'a dit, c'est une République qui revient sur certains principes de 93. Voilà. Ce qui est important de comprendre, je crois, c'est aussi le fait que, désormais, les sans-culottes, la population, est perçue non plus comme l'allié de la Révolution, ceux qui permettaient de, finalement, conforter la Révolution, permettre d'avoir de nouveaux droits. Ici, les sans-culottes sont vus comme ceux qui, finalement, sont un danger pour la République. Voilà. Et c'est un petit peu dans ce contexte-là, de conspiration royaliste, de mouvement aussi sur la gauche, que émerge la personnalité de Napoléon Bonaparte, avec un succès qu'il a, enfin, en tout cas, une personnalité qui s'est forgée de leader militaire, de victoire sur les fronts, et finalement ici on a un pouvoir qui va glisser progressivement du pouvoir politique au pouvoir militaire. Et finalement le coup d'état de 18 Brumaire, c'est finalement un coup d'état qui se montre en fait sous le visage de la restauration de l'ordre et la restauration et la fin de la guerre civile. Donc on a ici le 18 Brumaire, on va dire une passation de pouvoir, quasiment, c'est un coup d'État certes, mais on va dire que le pouvoir ici était relativement faible au sommet de l'État, et que Bonaparte finalement fait un coup de force, hein, qui est un coup d'État, mais qui se présente sous les aspects de restauration de l'ordre, et un ordre qui va ici rétablir durablement, puisqu'il va à son tour fonder progressivement ce qu'on va appeler l'Empire. Pour aller très vite, là aussi, on a la volonté chez lui de fonder un empire durable, stable, qui reprend les principes de 89 par certains aspects. Hein, il va même approfondir certains aspects de 89, puisque le code civil, c'est un petit peu ça, hein, c'est aussi un code de loi, etc. Bon, même si on a beaucoup à lire sur le code civil, une partie est toujours en vigueur aujourd'hui. Il y a la volonté aussi d'instaurer la République, d'instaurer en tout cas l'État français partout, à la création des du poste de préfet, la volonté de la création du lycée comme élément permettant de créer, on va dire, une élite au service de la nation, hein, la volonté d'avoir, voilà, de créer les meilleurs pour que les meilleurs puissent diriger la nation. C'est en fait ces choses-là qu'on peut retrouver. Mais en même temps, on a aussi un Bonaparte qui va achever la révolution dans tous les sens du terme, parce qu'il va confisquer aussi le pouvoir politique au peuple et finalement se l'approprier dans un régime qu'il voulait fonder, enfin qu'il voulait durable, hein, puisqu'il avait le sacre de Napoléon, hein, le tableau de David, et en fait tout simplement ici la volonté d'instaurer une dynastie qui va échouer, parce que vous le savez, en 1814-1815, vous avez une défaite qui fait que Napoléon est exilé, puis il reviendra sur les 100 jours, puis de nouveau il sera défait. Mais il y a la volonté d'instaurer une véritable dynastie qui va ici revenir évidemment sur les grands principes de la Révolution française. C'est pour ça que généralement, voilà, on arrête la période de la Révolution française au coup d'État du 18 Brumaire, ou légèrement après à la proclamation de l'Empire. Pour certains, ça va jusqu'en 1815. Bon, pour ma part, je pense qu'on va plutôt s'arrêter au coup d'État. Je crois qu'il y a une certaine cohérence dans toute cette période qui fait qu'on peut l'étudier d'un seul bloc et qui montre à la fois, donc, pour conclure, des ruptures politiques, des ruptures sociales, la naissance de la nation, la naissance de la notion de citoyenneté, et qui fondent, on va dire, les principes qui, aujourd'hui encore, permettent d'avoir... je crois surtout de mieux comprendre l'époque actuelle et les enjeux actuels. Voilà. Pour conclure, toute dernière idée, la Révolution française, elle a eu un écho, c'est vrai que pas envisager le sujet sous cet angle-là, je crois que ce n'est pas le plus important, mais elle a eu un écho européen, voire mondial, puisque vous avez donc la fondation de républiques sœurs à un moment, donc de républiques qui sont intégrées à la France, notamment en Italie, dans ce qui est aussi l'Allemagne, enfin les Pays-Bas, et vous avez donc un écho européen à cette époque, mais je crois une référence aussi constante dans l'histoire de la gauche en particulier, mais bon, aussi peut-être un peu à droite, avec des références un petit peu différentes, mais ça a été un événement qui, ici, a marqué profondément le monde. C'est pas le premier régime démocratique qui a existé, mais c'est un mouvement, ici, d'insurrection populaire, de fondation d'un nouveau régime qui a marqué l'histoire, et la preuve, on en reparle encore ce soir. Mais je crois que c'est utile, c'est un sujet vaste qui permet d'appréhender, ici, je crois... une approche intéressante des systèmes politiques, y compris actuellement. Voilà, ça permet d'avoir un autre regard peut-être sur nos institutions. Voilà, j'en ai fini. J'ai peut-être été finalement un peu court. J'aurais pu m'apesantir sur d'autres aspects. Mais on y reviendra durant les questions.
Oui, on va y revenir.
Est-ce que je présente les bouquins ou je fais ça à la fin ? Ouais. Oui. Alors, bon, j'ai pas ramené beaucoup de livres sur la Révolution française. Il y a beaucoup de choses qui circulent. J'ai oublié un des livres qui... Les discours de Robespierre qui sont en édition, c'est une édition assez accessible, hein, c'est un livre de poche sur les discours de Robespierre, mais qui sont présentés, c'est assez bien fait, ça s'appelle tout simplement discours de Robespierre, qui l'a fait, mais c'est assez intéressant de voir la présentation aussi et la mise en contexte des discours qu'il aurait prononcés, et notamment celui-ci sur l'Assemblée constituante. Il y a un livre ici qui déborde un peu le cadre de l'objet à proprement parler de ce soir, c'est sur les origines culturelles de la Révolution. Là, c'est un petit peu une approche originale, parce qu'on ne va pas y traiter l'événementiel, mais le courant, peut-être faire tourner les livres d'ailleurs, si vous voulez y jeter un coup d'œil, ça permet de comprendre justement quelle est la puissance des Lumières, la puissance de l'écrit, la puissance de ce qu'on appelait la désacralisation, pour comprendre pourquoi, en fait, en 89, il se passe quelque chose. Voilà, essayer d'avoir une approche, on va dire, sur le long terme, et pas simplement... purement événementiel sur les années qui précèdent la Révolution. Et puis ensuite, deux bouquins. Celui-ci, c'est un pavé, certes. C'est un des livres pour les curieux qui sont un peu érudits. C'est un livre ici qui présente différentes contributions d'auteurs sur un thème révolte et révolution, donc pas simplement en France, mais sur l'ensemble de la période, y compris aux États-Unis, qui permet de comprendre là l'ampleur révolutionnaire à cette époque et de comprendre aussi la spécificité française. C'est un livre assez récent et du coup qui permet d'avoir une approche très très actuelle. Hein. C'est vraiment voilà des historiens qui font état de leurs travaux il y a 3-4 ans, mais voilà, c'est une somme de documents qui a été récolté là récemment. Et enfin, le dernier, même intitulé, mais ici peut-être beaucoup plus accessible, c'est en fait un bouquin qui est paru parce que cette question-là a été présentée pour le concours prof d'histoire-géographie. Voilà. Tout simplement, donc c'était à un moment donné la publication du CNED qui est quand même relativement, qui est relativement bien et qui permet d'avoir une approche aussi globale des choses avec des orientations bibliographiques à la fin. Et je crois une approche qui permet d'avoir par thème une vision d'ensemble sur ce qui s'est passé. Voilà.
Alors, moi, j'en rajoute un qui ne se trouve quasiment plus sauf en bibliothèque, hein, je vous préviens tout de suite, c'est « Ils ont pensé les droits de l'homme ». Et un livre qui a été voulu et publié grâce à la Ligue des droits de l'homme, hein, sous la direction de Madeleine Ribériot à l'époque, qui était professeur de l'université à Paris 8. Et c'est très intéressant comme, comme livre, car on resitue tous les débats autour de la déclaration, en fait, des déclarations des droits de l'homme, avec les avancées, les reculs sur toute une série de sujets, la tolérance, la propriété, droit ou devoir, etc. Il y aura une conférence qui en vient directement sur ce thème en fin de cycle, mais parce que ce livre est épuisé, mais dans les bibliothèques municipales, généralement, vous pouvez encore en trouver et vous fera fonctionner des larges discussions sur le site en fin de cycle. Voilà. Eh bien, merci.